pensait connaître la parole de Dieu. Il était même un maître. Et quand il a été voir Jésus, Jésus lui a dit, tu ne comprends pas les choses parce qu'il faut que tu naisses d'en haut. Et il y a un sujet sur lequel je me suis aperçu depuis bien longtemps que nous n'abordons pas, parce que voilà, c'est un fait acquis, c'est un fait compris par tout le monde. Tout chrétien connaît le mot conversion. N'est-ce pas ? On sait ce que c'est que la conversion. Et cette semaine, le Seigneur il m'a dit, Jean-Claude, reviens sur ce sujet. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il a bien fait, j'espère. Ça, vous me direz à la fin. Et donc voilà, conversion. On entend plein de choses sur le mot conversion. On entend plein de choses sur comment on se convertit, comment on vient à Christ, qu'est-ce qui se passe. Et souvent, ça reste un peu là. Hein. Et pour verset de base, je n'ai pas pris le texte de Jean 3 que je signalais tout à l'heure avec Nicodème. Mais j'ai pris ce passage de Matthieu chapitre 18, verset 3. Où il est dit, « Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, et là dans les versions second, vous avez marqué « converti », vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. » Seigneur, mais une barre qui est élevée, n'est-ce pas ? Et on se dit, mais peut-être, c'est bizarre, Jésus il parle de devenir comme des enfants, on devient sénile. Retour en enfance, dans le royaume de Jésus, bienvenue aux enfants. Mais pourquoi est-ce qu'il fait référence à l'enfant? Et comment la conversion, que je vais essayer d'expliquer ce matin, nous amène à visiter 5 domaines de notre vie. Le premier domaine, c'est la simplicité. Les enfants sont simples. Jésus fait référence à la simplicité de relation, à la compréhension, à un statut de... Vous savez, nous les humains, on complique énormément les choses. On veut le détail du détail, mais la simplicité, on a du mal à la comprendre. Et quand Jésus dit « Revenez comme des petits-enfants », il nous dit « Arrêtez d'être compliqués ». Nicodème était un maître, un théologien. Il lui dit « Nicodème, descends de ta chair, deviens simple ». La deuxième chose qu'il lui demande, ou qu'il nous demande, c'est qu'un enfant, quand vous lui prenez la main, il a confiance que celui qui lui prend la main va l'amener là où il a besoin, va le protéger. Et on a lu tout à l'heure hein, ce passage de l'Évangile où Jésus dit « Je suis le bon berger ». Est-ce qu'on confierait nos vies à un mauvais berger ? Et des fois, on en suit des mauvais. Hein. Le troisième mot, sur l'enfance, c'est l'humilité. Quand on est enfant, on reconnaît que nous sommes enfants. Vous savez, c'est quand on arrive à un certain âge, je ne dirais pas un âge certain, parce que ça c'est plus tard, mais à un certain âge, on veut argumenter. Maintenant, je suis un homme, je suis une femme, j'ai aussi mon mot à dire. Et Jésus, quand il parle de l'enfance, il nous rappelle que lui, il est Christ. Et nous sommes des enfants. Qu'il n'y a pas de compétition. La quatrième chose qu'il fait référence quand il parle des enfants, c'est à la vulnérabilité. Ça veut dire d'être vulnérable, d'être changeable. Que quelque chose puisse changer et qu'il y ait une certaine fragilité. Dans vulnérable, il y a fragile. Nous sommes des êtres fragiles. N'est-ce pas ? Notre vie, voilà, notre frère a partagé ce matin. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, on n'est pas invulnérable. Et Jésus nous rappelle, au moment de la conversion, au moment de cette approche vers lui, nous sommes vulnérables. Enfin, le cinquième mot, c'est la dépendance. La simplicité, la confiance, l'humilité, la vulnérabilité, la dépendance. Nous dépendons de lui. Notre vie ne peut pas se faire, notre avenir ne peut pas être scellé si nous ne le connaissons pas. Vous avez déjà pensé au domaine de l'enfance de cette façon? Quand on regarde nos enfants, on dit est-ce qu'ils sont simples, confiants, humiliés? Ils ont l'humilité, ils sont vulnérables et ils sont dépendants. Voilà le premier domaine que Jésus amène à considérer quand on veut parler de conversion. Pas d'arriver en maître, pas d'arriver en philosophe, en intellectuel, en disant « je vais discuter avec toi, il y a peut-être un moyen de négocier ». Simple, confiant, humble, vulnérable, dépendant. Voilà la première partie du texte. Mais si on fait un petit parcours dans l'Ancien Testament et qu'on regarde comment est dépeint le fait de se tourner vers Dieu, on a un premier texte qui se trouve dans l'Évangile. Dans l'Évangile, pardon. C'est le prophète Joël, excusez-moi. Prophète Joël, au chapitre 2, verset 12, qui dit « Maintenant encore, déclaration du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Ne déchirez pas vos vêtements, comme c'était la tradition. Mais votre cœur. Et revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est clément, compatissant, patient, grand par sa fidélité. Il regrette le mal qu'il envoie. » Waouh ! Déchirez, arrêtez de paraître. C'est ça qu'il dit, arrêtez de déchirer vos vêtements. Oh ! Mais qu'il y ait quelque chose de vrai dedans. Quand vous associez les cinq facteurs qu'on vient de lire en disant maintenant ce que je veux, c'est l'apparence. C'est pas de la comédie. C'est pas de la religiosité. Non, ce que je veux, c'est le dedans. Et là, regardez bien. Ne déchirez pas vos vêtements. Qui fait l'acte? C'est moi. Mais votre cœur. Revenez au Seigneur. Tournez-vous vers lui. Vous êtes dans telle direction maintenant. Faut vous tourner la bonne. Parce que notre Seigneur, il est clément, compatissant, il est bon, hein, selon votre traduction, patient. Et combien il est patient. Combien il est patient avec nous. Combien, à sa place, on aurait lâché prise. Quand on se connaît, on dit, Seigneur, ben, t'es drôlement patient avec moi quand même. T'as de la patience pour les autres, mais avec moi, quelle patience. Que le texte nous dit là, dans le prophète Joël, il nous dit quelque chose. Il dit, on peut tenter des réformes, on peut tenter des changements, on peut inventer des écrits, mais ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, et ce jour de conversion, ce moment de conversion, il dit, je veux un changement de cœur intérieur, sincère, intérieur et sincère, qui se fonde sur la connaissance du caractère de Dieu. Est-ce que vous connaissez le caractère de Dieu? Est-ce qu'il a bon caractère? Est-ce que notre Dieu se lève du mauvais pied? Et il ne peut pas se lever parce qu'il ne se couche, il ne dort ni ne sommeille, la Bible dit. Mais regardez bien, on a vu son caractère là. Il est clément, compatissant, patient, fidèle. Il ne veut pas faire le mal. Ah. Est-ce que là, j'ai une idée du caractère de Dieu? Oui. De sa personne? Oui. De qui il est? Oui. Pas une réformation extérieure, mais une compréhension, une approche basée sur la connaissance de Dieu. On va passer notre vie entière, mes amis. Notre vie entière. Longue ou courte, à connaître Dieu. Mais la chose qui est essentielle dès le début, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas? Si on change de direction, il faut prendre la bonne direction. On change souvent en voiture, hein, de direction. Maintenant, avec nos GPS, on fait un peu moins d'erreurs quand le GPS reconnaît la route. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10, tout comme le prophète Joël, mais bien avant, il est écrit « Vous circoncirez donc votre cœur, et vous vous montrerez plus rétif. Vous circoncirez votre cœur. » On fait une entaille, c'est ça, une écharpe. On montre quelque chose. Dieu nous demande quelque chose d'incroyable. Et ce moment de conversion, ce moment de changement, ce changement d'arrêt, ce changement où il va se passer quelque chose d'extraordinaire, ça commence avec le cœur. Bien sûr, ça va être rentré dans les oreilles, dans notre tête, mais ça doit aller jusqu'au cœur. Le prophète Jérémie, chapitre 4, verset 4, il dit « Circoncisez pour l'Éternel, circoncisez votre cœur. » Homme de Juda, habitant de Jérusalem, de Vigne-sur-Seine, de peur que ma colère n'ait comme un feu, ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. On blâme Dieu. On blâme Dieu pour toutes sortes. Pour les catastrophes, pour les typhons, pour les accidents, pour le chômage, pour le problème des finances, pour la malnutrition. Mais la colère de Dieu, elle est pour les hommes qui refusent, les hommes méchants, à cause de la méchanceté de nos actions. Combien si Dieu, je me dis des fois, quand on réagit mal, vous savez, quand on a une réaction un peu vive, parce que les circonstances, c'est pas notre faute, hein, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Et on va réagir mal, on va dire une phrase assassine, hein, où on va regarder la personne avec des yeux, on se dit, s'il y avait deux mitraillettes, il y a longtemps que tu serais mort. Et je me dis, mais si Dieu intervenait là, en disant, hey, ça c'est pas bien. Vous imaginez la tristesse de notre Dieu quand on fait ses actions? Et là il dit, circoncisez votre cœur. Donnez à Dieu, non pas la pompe, bien sûr, notre cœur c'est ce qui nous permet de vivre, n'est-ce pas? Mais le cœur, dans l'esprit de Dieu, c'est l'entier de la personne. Le prophète Ézéchiel, il nous dit « Rejetez loin de toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. » Regardez bien, là, il rajoute un terme. Il dit « Et un esprit nouveau. Pourquoi mourir ? Rejetez loin de vous les transgressions. » Moi, j'aime beaucoup rappeler que quand je suis venu à Christ, Dieu, il a pris mes fautes, mes péchés, et il les a jetés dans la mer, et il a mis un panneau pêche interdite. Et nous, on aime bien aller fouiller d'abord. On enlève le panneau, on fait sauter les scellés, on va fouiller. Et on dit, ah ! Et on ressort tout ça. Et Jésus dit, mais j'ai payé pour ça. J'ai payé pour ça. C'est là-bas, laisse-le tranquille. Vis ta vie. Pourquoi aller rechercher toujours ce qui faisait notre gloire avant, ce qui faisait notre identité alcoolique, fumeur, etc., 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 tout ce qu'on pouvait faire. Et on en tire une certaine gloire. Vous savez, quand, avant, dans la vie d'avant, et qu'on se rencontrait entre copains, et tout ça, et puis on racontait tout ce qui faisait notre gloire, et c'était que des bêtises. Que des bêtises. Des choses, on se disait, oh, heureusement, j'ai pas été pris, oh, heureusement, je suis rentré chez moi. Mais on en est tellement fiers quelque part, parce que c'est notre personne. Mais la chose extraordinaire, c'est que quand Dieu vient à Dieu, il nous dit, tout ça, c'est fichu, c'est fini. J'ai payé pour ça, mon gars. J'ai payé pour ça. Arrête, ne regarde plus à ces choses-là. Paul, il dit, j'ai considéré même des choses plus importantes que ça, comme de la boue, pour gagner Christ. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dans le Nouveau Testament, il y a deux mots ou deux actions. Alors, ce n'est pas une étude biblique, hein. J'ai bien conscience que je ne peux pas faire une étude biblique ce matin, mais juste expliquer l'inexplicable. Vous savez, on veut essayer de parler de l'action de Dieu dans notre vie, on fait des images. Alors, première image, deuxième image, troisième image, quatrième image. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais quand on comprend le concept de ce qui se passe, alors on peut mieux comprendre ce qu'on est en train de faire avec Dieu et ce que Dieu fait dans notre vie. Et le premier mot, C'est épistrepho, c'est se tourner vers. C'est ça le mot conversion. Se tourner vers. C'est encore se diriger sur. Se tourner, tout simplement. Se retourner. C'est revenir. Et les différentes traductions bibliques ont choisi un ou l'autre de ces mots. Mais la vérité, c'est se convertir. Se tourner vers Christ. La conversion. Se tourner vers, se diriger, se retourner, revenir. Revenez à moi. Et le deuxième mot, c'est métanoïeo, avec lequel on a fait métanoïa. En principe, la métanoïa, c'est une maladie. Les gens métanoïaques, c'est des gens qui ont double personnalité. Hein. Mr. Love et Dr. Hyde. Hein. C'est à partir de ce mot-là qu'on a fait ça. Schizophrène. Les schizophrènes, ils sont métanoïaques. Hein. Le matin, ils vont bien. À midi, c'est le bidon. Il y a des enfants, des fois, on regarde comme ça. Métanoïa. Changer. C'est plus tourner. Vous avez vu ? C'est changer. C'est changer d'avis. C'est changer d'attitude. C'est changer de vie. Parole de vie a traduit changer de vie. C'est changer radicalement. C'est se repentir. Se convertir. Se repentir. Il y en a un qui nous détourne et l'autre qui nous change. Deux actions simultanées. Deux actions qu'on ne peut pas dissocier. Deux actions qui se passent le jour où la parole de Dieu nous intercepte. Mais qui prend la décision ? On va le voir tout à l'heure. Changer, changer d'avis, changer d'attitude. On ne peut pas dire, j'appartiens à Jésus-Christ et il n'y a rien de changé dans ma vie. S'il n'y a rien de changé dans ma vie, je me leurre, je me trompe. Et je trompe les autres. Luc 22, 32 nous dit, on l'a vu ce matin dans le groupe d'études là, j'ai prié pour toi, c'est Jésus qui à Pierre. Pierre qui est ce combattant des premiers jours, cet ami proche qui dit Seigneur, là où tu iras, j'irai. Hein, il aurait pu chanter le chant. Je serai avec toi, il aurait pu faire la déclaration. Hein. Mais Jésus lui dit quelque chose. Il lui dit, Pierre, ça va bouger. Satan t'a réclamé. Va y avoir de la secousse. Et il lui dit ça. Il lui dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères alors. Et toi, quand tu auras vraiment décidé, quand tu auras fait demi-tour, quand il y a un vrai changement dans ta vie, alors tu pourras affermir les autres. Et Pierre, j'imagine, hein ? Non, mais attends, tu me racontes. Hein. Je t'ai déjà fait un crack ? J'ai déjà fait quelque chose de pas bien ? C'est déjà lâché, moi ? Non, mais t'as vu à qui tu parles, Jésus ? Non, mais attends. Non, mais toi, tu dirais ça de Thomas. D'accord, Thomas ? Non, mais il doutait même que t'étais ressuscité. Mais moi, non. Pas bon. Pas vraiment. Mais voilà. Et Jésus lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et puis dans Actes 3, 19, repentez-vous et convertissez-vous. Les deux mots sont là. Changez de direction, changez de cœur, changez de personne. Parce que pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous avez déjà vu la conversion sous deux angles ? Deux angles. Avec deux façons, changer de direction et changer soi-même. Repentir, regretter, reconnaître. C'est pas la bonne direction. C'est pas la bonne façon de faire. Je regrette. Nous, on cherche plutôt les circonstances. Hein. On cherche un bon avocat qui explique. Mais il avait des bonnes circonstances. C'était pas de sa faute. Et le monde trouve tous les moyens d'effacer tout ça. Que dit alors notre texte ? Je vous le dis en vérité, Louis II a dit, si vous ne vous convertissez pas, alors, la Bible en français courant, peut-être long, certains l'ont, il dit, si vous ne changez pas, la nouvelle Bible second, 79, a dit, si vous ne faites pas demi-tour, et la Bible au Sommeur a dit, si vous ne changez pas d'attitude, voilà ce que nous dit le texte. Il dit, s'il n'y a pas un vrai changement, alors, il y a un problème. Le fait de savoir dans notre tête qui est Dieu, où il est, et ce qu'il a fait ne change rien à notre vie et à notre destinée. Le mot conversion, c'est la rencontre initiale et décisive avec Dieu. La rencontre initiale, la première. C'est ça que veut dire initiale, la première. Oh, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, oh, c'est décisif. Vous savez, on entend beaucoup de témoignages, oh, ça a changé ma vie. Rencontre avec telle personne, rencontre avec telle personne. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, il y a maintenant bien longtemps, bientôt 40 ans, c'était un changement radical. Mais il y a encore du travail, mes amis. Il y a encore du travail. C'est la nouvelle naissance ou la régénération, la transformation, la modification de la cellule. C'est encore se détourner du péché pour se tourner vers Christ. C'est l'acte de Dieu qui nous fait passer de la mort à la vie, qui nous fait entrer dans son royaume. Waouh ! Vous avez imaginé un jour, on parlait de conversion avec tout ça dedans ? Par contre, on ne le sait pas trop avant, hein, parce qu'on se dit, purée, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. C'est montrer que Dieu fait une chose absolument incroyable, qu'aucune technique au monde ne peut faire. Changer le cœur des hommes. Sans intervention des autres. Matthieu chapitre 3 nous dit ceci. Jésus disait aux gens de son époque, repentez-vous. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous. C'est l'évangile de Matthieu, toujours chapitre 4, verset 17. Pierre, ce Pierre qui a été défié, ce Pierre à qui on a dit, ça va bouger. Pierre leur dit, repentez-vous. Et là, il devait mesurer les mots. Il devait comprendre ce que ça voulait dire de se repentir, de regretter, de pleurer. Vous vous rappelez, quand il a renié Jésus trois fois, il a dit, il pleura amèrement. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Changez radicalement, a dit Jean-Baptiste. Changez radicalement. Marc 1,15. Jésus leur dit, le temps est accompli. Changez radicalement, croyez. Paul, Thessalonicien, dans 1 Thessaloniciens 9, quand on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On a gardé les idoles dans notre vie, n'est-ce pas ? On a gardé combien d'idoles ? Des choses qu'on vénérait avant et qu'on garde encore là. Ah mais moi j'ai été élevé avec. Ça fait partie de la tradition. On appelle ça la tradition. On appelle ça la culture. Puis ce sont nos petits dieux à nous. Ça offense Dieu. Ça nous détourne de la bonne direction. Mais on les garde. Et là, Paul, il est tellement émerveillé de ce que les Thessaloniciens ont fait. Il dit, mais voilà, on en parle partout. On n'a même pas besoin, nous, de dire quelque chose. On dit, ah oui, les Thessaloniciens, ils ont fait... Imaginez qu'on dise ça des Vignosiens. Quelle campagne d'évangélisation, n'est-ce pas ? Avant qu'on arrive, qu'on nous dise « Oh ouais, je sais, j'ai entendu parler. Oh, il paraît que ça bouge, hein, au 177. Wow, les gens qui rentrent dedans, non. Mais il se passe rien là. Rien d'autre que le rassemblement de ce que Dieu fait dans nos vies. Une double action. Celle de la parole de Dieu. La première chose qui compte dans la conversion, c'est être exposé à la parole de Dieu. Acte 2:37, après avoir entendu le discours, et c'est Pierre qui parle, hein, ils eurent le cœur. Ils eurent quoi ? Leur esprit, leur intelligence, leur mémoire. Vous avez vu le cheminement ? Ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, alors maintenant on nous a dit ça, on va faire quoi ? Repentez-vous. La parole de Dieu, c'est ça qui change. Ce matin, on l'a dit, hein, si on la partage, il passe des choses. Il la rejette ou il la prenne. Mais c'est que la parole de Dieu qui peut changer. Et puis la deuxième action, c'est celle du Saint-Esprit. Jean 16, 8, il est dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. C'est l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. À ce moment où il dit, hé, ce que tu as entendu là, c'est ta vie. Est-ce que tu es sur la bonne route ? C'est lui qui nous convainc. C'est lui qui, quelque part, nous amène à dire, alors, tu vas faire quoi avec ça ? Et maintenant, hein, Samson, hein, maintenant que je vais faire. Mais s'il y a une double action de Dieu, il y a une double réaction. La première réaction, c'est la foi. La repentance. Changer de direction. Accepter que je suis dans la mauvaise direction, on l'a vu. Et puis la foi. La foi, vous avez vu le cinquième tout à l'heure des mots par rapport à l'enfant, c'est la confiance. La confiance. Dieu nous amène sur un... Quand il nous dit rentrer dans ma bergerie, il ne nous amène pas là où il y a des loups. Il ne nous amène pas là où il y a des renards. Il ne nous amène pas là où il y a du barbelé. Il nous amène dans sa bergerie où lui va nous garder. Et Paul fait cette déclaration aux Corinthiens, au chapitre 15, sa première épître au verset 1, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. La parole de Dieu, la foi, la repentance, la foi, la confiance. Marcher avec Dieu, engager une vie entière, une éternité entière. Il y a plus que notre vie, mes amis. Il y a plus que les 10 prochaines années, les 3 prochaines années, les 40 prochaines années. Il y a l'éternité. Et ça vaut le coup de savoir où on va, n'est-ce pas ? Avant de dire oui. Alors, il y a des résultats. Vous savez, des fois, on passe des examens. Examens médicaux. Ma fille en a passé un cette semaine. On lui a dit résultat dans 15 jours. Alors, pendant 15 jours, on demande... C'est quoi la réponse ? Et imaginez que voilà, quand on s'approche de Dieu, il dit, bah, écoute, tu repasses dans 15 jours et je verrai où est ton dossier. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Et Jésus, il y a une chose extraordinaire, c'est que quand il reçoit mon dossier, il dit, oh, ah mais là j'avais besoin de payer. Ah Jean-Claude, quand le dossier est arrivé en surface, hein, il a dit, je sais pourquoi j'ai payé. Je sais pourquoi. Libération. Instantanément, nous sommes libérés de la condamnation qui pesait sur nous. Libérés de la condamnation. Garantie d'une vie relationnelle éternelle avec Dieu. Waouh ! C'est dans le paquet, là, c'est là. Oh ! Assurance d'une résurrection à venir. Je ne suis pas encore mort. J'étais mort. Et Dieu m'a rendu la vie. Mais il se peut que je meurs à nouveau pour ressusciter cette fois. Et développement d'une vie de communion avec la famille de Dieu. Là, mes frères et sœurs. Waouh ! Vous connaissez quelque chose qui a des effets aussi immédiats ? Libération dû payer une dette énorme, libéré de l'obligation de péché, garantie d'une vie relationnelle avec Dieu, minute après minute, c'est un bon forfait. C'est illimité. Alors, dans les Lamentations, il y a un cri. Quand on parle de conversion, quand on parle de s'approcher de Dieu, il y a souvent un obstacle. Et c'est intéressant de voir souvent quand on a, voilà, on a préparé des amis, on a parlé de Jésus, ils sont presque prêts à venir, ils sont décidés. Allez, la prochaine fois. Et regardez bien ce cri qui est lancé dans les Lamentations, chapitre 5, verset 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Quand le Seigneur nous appelle, quand le Seigneur touche notre cœur, il y a une chose extraordinaire, c'est qu'il nous donne la force pour revenir. L'ennemi, lui, va s'employer pour qu'on ne vienne pas. Les gens vont se dire, bon, je vais laisser tomber. Mais Jésus, s'il nous appelle ce matin, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'il va vous donner le courage de vous lever. Oh, j'ai pas eu le courage. Vous savez que le courage, c'est deux mots. Il y a l'action intérieure de ma foi et il y a l'accompagnement des autres. C'est ça le courage. Le courage, c'est de savoir que ceux qui sont autour de moi ne me jugent pas, ne me punissent pas. Et de savoir que Dieu est là. Fais-nous revenir vers toi. Fais-nous revenir et découvrir cette qualité de vie, ce changement radical, ce changement qui va faire de moi un être nouveau. L'évangéliste Jean, au chapitre 1, verset 12, nous parle d'une décision. Et la majorité, on l'a prise, cette décision, un jour. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, ceux qui ont accepté, ceux qui se sont repentis, ceux qui se sont convertis, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh. D'un seul coup, sans nation, sans peuple, rejeté, étranger sur la terre. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Oh mes amis, moi je me rappelle de ce jour. Incroyable. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de public, il n'y avait rien, j'étais dans ma chambre là. Et je ne comprenais même pas ce qui était en train de se passer. Quand j'ai dit oui Seigneur, j'accepte, je capitule, j'avais aucune idée, aucune, de ce qui allait arriver derrière. Je savais une chose, c'est que j'étais en train de prendre la bonne décision. Et des hommes, des femmes, aujourd'hui, jour après jour, on leur présente leur message, on leur dit voilà, et demain. Reviens demain. C'est pas le jour. Pas le moment. J'ai d'autres soucis actuellement. Rappelle-moi. Passe-moi un SMS. Ou un mail. Passe-moi un WhatsApp si tu veux. Ça, on a multiplié les moyens de communication. C'est pas vrai? Les gens, ils sont connectés 24-24, 7-7. Là, même pour ouvrir la porte du frère. Mais la nuit. Hey, ça rentre toi. C'est incroyable, là. Il y a 10 ans, voilà, Thomas, il s'est resté devant la porte, il l'a mis sur le palier. Alors, il aurait réveillé Pierre, avec sa joue. Voilà. Sur la action. C'est incroyable, non? Et Dieu, il a créé cette communication instantanée. Et pour ça, que Dieu, il a inventé le SMS, le WhatsApp, il y a bien longtemps. On peut lui parler en direct, à tout moment, et ça, depuis des siècles. Et l'homme, il réinvente des trucs, et il se dit, quand même, je suis fort, hein. Dans Jean 3, 7, il dit, ne t'étonne pas. Et là, je reviens à M. Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est pas tout de savoir, d'avoir toute la connaissance du monde. Mais il faut que tu naisses d'en haut. Maintenant, il faut que tu prennes la décision. Là. Et on n'a pas de texte qui nous dit que Nicodème, là, il s'est mis à genoux, il a pleuré, ou il a fait quoi que ce soit. Mais on le retrouve plus tard, Nicodème. Et il a pris la bonne décision. Alors,
conclusion. Vous la sentez venir ?
Il y a une décision à prendre. Voilà. John Newton, c'est amazing guy, c'est un quelle grâce infinie. Et vous savez ce qu'il a dit, monsieur Newton ? C'est donc John Newton, c'était un monsieur qui vendait des esclaves, pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est lui qui nous a laissé beaucoup de champs. Et un jour, alors qu'il était sur son bateau et qu'il emmenait encore des gens qu'il avait donnés en esclavage, Dieu l'a touché. Dieu l'a touché. Il est venu à Christ, il a lutté contre l'esclavage bien plus tard, mais il est vraiment devenu un être nouveau. Et voilà ce qu'il a dit qui m'a touché. Je l'ai lu cette semaine. Il dit : je ne suis pas l'homme que je devrais être. La femme, les dames, vous pouvez mettre. Parce que si vous lisez l'homme, vous dites : c'est pas moi. Je ne suis pas l'homme que je voudrais être. Je ne suis pas l'homme qu'un jour je serai. Mais, par la grâce de Dieu, je ne suis plus celui que j'étais. Je ne suis plus celui que j'étais. Je ne suis pas celui que je devrais. Je ne suis pas, et là si vous lisez Romains chapitre 7, vous comprendrez pourquoi il est arrivé à cette réflexion. Je ne suis pas l'homme que je voudrais être. Je ne suis pas celui que je serai un jour. Mais en tout cas, je ne suis plus celui que j'étais. Et ça, c'est tout le principe de la conversion. On ne sera peut-être pas ce qu'on veut qu'on être, mais on va cesser d'être ce qu'on était avant. Alors mes amis, je ne sais pas si ça vous a éclairé, fait réfléchir, interrogé, perturbé, mais moi je ne peux pas terminer un message comme ça sans vous poser la question. Est-ce que vous êtes né dans le... Est-ce qu'un jour vous avez décidé pour votre part ? Oui. Je suis d'accord. Je ne suis pas sur le bon chemin. Je pars dans la mauvaise direction. Je veux bien me tourner vers Christ et marcher avec lui. On va prier. Seigneur Jésus, tu vois, ce matin, nous avons revisité ce concept clé. Ce concept où par l'interpellation de ta parole, par l'action du Saint-Esprit en nous, tu nous as amenés pour une grande majorité à prendre la décision de marcher dans tes pas, de regretter notre passé, de le laisser à tes pieds et de te suivre. Mais Seigneur, il y a peut-être dans notre assistance ce matin des hommes, des femmes, des jeunes garçons, des femmes qui entendent ce message jour après jour, dimanche après dimanche, et qui peut-être ne se sentaient pas concernés. Mais dans ta grâce, tu as permis qu'ils soient là ce matin, comme notre sœur la semaine dernière, et tu veux les interpeller. Comme à Nicodème, tu leur dis, il faut naître d'en haut. Alors mes amis, ça peut être un jour exceptionnel aujourd'hui. Un jour de grâce. Un jour de fête. Je ne sais pas ce que vous allez faire cet après-midi, mais votre après-midi peut être complètement changé. Votre calendrier de vie peut être transformé. Parce que vous aurez accepté de venir à Jésus. Parce que vous aurez accepté de circoncire votre cœur. Vous aurez accepté de prendre la bonne route. Elle n'est pas large. Elle est difficile à prendre. Mais Dieu vous la pose. Alors je pose cette question tout simplement. Là où vous êtes. Si jamais dans votre vie vous avez pris cette décision tellement importante, Jésus vous en fait l'offre ce matin. On n'est pas là pour vous juger. On n'est pas là pour vous condamner. Nous sommes là simplement pour être à vos côtés, pour nous réjouir avec vous et pour nous réjouir de ce que Dieu veut travailler dans votre cœur. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui, voilà, tout simplement, humblement, comme un enfant, comme on l'a vu dans le premier texte, veut venir à Jésus ? Abandonner la mauvaise route pour se tourner vers Christ. N'ayez pas honte. Vous dites, ouais, mais je suis là depuis tellement longtemps, si je me lève, mais ils vont dire quoi? Ils vont dire, tu nous as trompés alors toutes ces années. Mais mes amis, c'est pas avec nous que vous avez des comptes à rendre. C'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui ce matin veut prendre la main que Dieu lui tend? Quelqu'un qui veut cheminer sur la bonne route? Jeune, moins jeune, homme, femme, Jésus ne fait pas d'exception. Eh bien, Seigneur Jésus, tu vois, l'appel a été planté dans les cœurs. Tu connais chaque personne qui est assise là, et tu les aimes. Et tu veux que nous les aimions. Tu veux pas que nous le jugions. Alors, Seigneur, moi je prie que ce qui a été planté puisse porter racine. Que cela puisse éclore. Que ça puisse se transformer dans des vies transformées, dans des vies modifiées. Dans des vies qui t'honorent et qui te glorifient. Au nom de Jésus-Christ. Amen.